I'm turning now to the Gospel of John, chapter 17 and verse 1.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile de Jean au chapitre 17 et au verset 1. L'Évangile de Jean, chapitre 17, verset 1. Jésus dit ces choses, puis levant les yeux au ciel, il dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Et notre sujet est la prière sacerdotale du Seigneur. Et ce matin, nous allons introduire cette prière extraordinaire et merveilleuse du Seigneur. Une prière dans laquelle nous entendons la volonté de Dieu, la volonté du Père, du Fils et du Saint-Esprit exprimée dans ces paroles extraordinaires. Et nous considérons cette prière avec respect et en étant émerveillés, la prière de notre Sauveur juste avant qu'il n'aille dans le jardin de Gethsémané, avant son arrestation, son jugement et sa crucifixion. Les disciples ne savent pas ce qui va se passer. Ils ne réalisent pas que l'heure est venue. Mais lui sait, bien sûr, exactement ce qui va se passer. Toutes les autres prières du Sauveur dans le Nouveau Testament sont très courtes, souvent une phrase très courte. Il y a 10 prières qui nous sont rapportées. 3 de ces prières sont dans le jardin de Gethsémané, 3 à la croix du calvaire. En plus de cela, il y a 13 autres prières qui ne sont pas rapportées. Mais ici, c'est une prière qui fait 26 versets. C'est bien différent dans sa longueur, dans ce qu'elle contient. Et pour introduire, c'est là mon premier point si vous voulez. Quelques observations pour introduire cette prière. C'est une prière unique. J'ai parlé des prières de Christ qui sont très courtes. Est-ce que ce sont vraiment des prières? Oui. Mais c'est plus qu'une prière ici, dans un certain sens. C'est Dieu qui parle à Dieu. Il était homme, réellement homme, mais il était Dieu également. Ainsi, cette prière est unique. Ceci ne peut pas être imité. Et il y a certaines choses dans cette prière qui nous aident à apprendre pour nos prières à nous. Par exemple, c'est une prière qui est entièrement pour la gloire du Père, c'est-à-dire pour toute la Trinité. Qu'en est-il de nos prières? Elles devraient être moins concernées par nous-mêmes. Ou si nous prions pour nous-mêmes, nous prions pour quelque chose qui est pour la gloire de Dieu, pour que le Seigneur nous aide à l'aimer plus, à le servir plus. Et si nous mettons ceci comme une barrière pour toutes nos prières, alors nos prières ressembleraient plus à la prière du Sauveur. Oui, il y a quelques caractéristiques générales qui nous permettent d'apprendre de cette prière, mais c'est une prière unique de Dieu à Dieu. C'est une prière qui est entièrement selon la volonté de Dieu, selon le dessein de la Trinité. Cette prière prie pour toutes les choses que la Trinité a décidées, déterminées dans le passé éternel, dans le conseil de la Trinité. C'est une manière humaine de voir ces choses, parce que bien sûr Dieu n'a rien fait dans un temps fixé du passé, parce que tous ses desseins, ses jugements sont infinis et éternels. Mais nous devons voir ces choses d'une manière humaine. Et ceci est en accord entièrement avec la volonté du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chaque élément de cette prière va avoir une réponse de Dieu, parce que c'est Dieu, oui, c'est une prière, parce qu'il est dans une forme humaine, il est venu pour être notre représentant, il s'est humilié pour vivre comme nous devons vivre, une vie parfaite pour nous représenter. Ainsi, tout ce qu'il présente devant Dieu dans la prière, ses requêtes, en s'étant humilié volontairement, et peu de temps après, il va retourner à sa gloire, égal au Père. Ainsi, c'est une prière, oui, mais Dieu va répondre d'une manière certaine, parce que c'est plus une proclamation, tout autant qu'une prière, si vous voulez. C'est ce que nous voulons dire quand nous disons que c'est une prière unique, parce que le Seigneur va répondre. Non seulement ceci, parce qu'il est Dieu, mais également parce qu'il va accomplir tout ce pourquoi il prie. Il prie pour ses enfants, et lui, il va aller à la croix du calvaire dans peu de temps, il va souffrir, mourir pour représenter ses enfants. Il va porter leurs péchés sur lui-même, il va annuler leurs dettes, il va porter leur fardeau et payer le prix à leur place. Et en faisant cela, il va racheter ses enfants et payer le prix pour être le roi éternel de ses enfants. Ainsi, il prie pour eux et sa prière, le Seigneur va répondre, même si ceci ne s'est pas encore passé, mais parce qu'il est Dieu infaillible, tout autant qu'homme, il va réussir d'une manière certaine. C'est comme si c'était déjà fait, et il peut prier le Père comme si c'était déjà accompli. Il prie en disant « L'heure est venue ». Oh, vous devez comprendre que « heure » ne signifie pas une heure littérale. « L'heure », cela signifie une période dans le temps, quelques jours, durant lesquels il sera crucifié, il ressuscitera des morts et son ascension ensuite. Et ensuite, l'Esprit-Saint va être déversé sur l'Église au jour de la Pentecôte. Maintenant, c'est le moment, mais ce n'est pas la seconde ou la minute, littéralement, mais c'est le moment. Le temps est venu pour ce grand événement, cette heure décisive, cet événement extraordinaire qui va amener le salut aux enfants de Dieu. Ainsi, heure, c'est plus quelques jours, le moment, le temps, l'événement a commencé. Mais les disciples ne réalisent pas. Et en passant, tous ces événements pour lesquels le Sauveur prie, tous ces événements et les choses pour lesquelles il prie vont se passer immédiatement. Tous, cette prière, Dieu répondra immédiatement et rien ne sera laissé de côté, rien ne sera retardé. C'est là ce qui va se passer à la croix du calvaire, en résultat immédiat à cette prière. Toutes les caractéristiques du salut et de l'Église. C'est une proclamation où le Fils dit à son Père, mais il le présente ici, avec plein de respect, parce qu'il est dans son humiliation, ainsi il prie, mais il est également Dieu, ainsi c'est une proclamation. Et toutes ces choses sont accomplies. Et Dieu répond à toutes ces choses immédiatement. Et nous allons parler de ces choses de manière plus profonde plus tard, mais lisez cette partie de la prière. Au verset 21, « Afin que tous soient un, comme toi, ô Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'ils soient aussi un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. » Il y a une interprétation très insensée de ce verset et qui est profondément dans l'erreur et vraiment insensée, c'est l'interprétation catholique qui est devenue l'interprétation du soi-disant mouvement œcuménique. Et c'est ce que vous allez souvent entendre, que le Sauveur prie, et c'est là leur idée, que le Sauveur a prié pour que tous les chrétiens partout dans le monde soient un, dans le sens qu'ils se joignent à un grand mouvement œcuménique et l'Église catholique qui est dans l'apostasie, pour qu'il y ait une organisation et Christ a prié pour qu'il y ait cette unité parmi tous ses enfants. Et c'est là notre but. Bien sûr, c'est là une interprétation qui trahit une mauvaise compréhension totale de l'Écriture. Parce que c'est là un grand principe, cette prière. Dieu a répondu immédiatement. Nous n'avons pas besoin d'attendre pendant des siècles et des siècles pour qu'une organisation arrive et décide que tous les chrétiens se joignent dans une organisation internationale, une église internationale ou une dénomination. Non, ce n'est pas l'idée de ce verset. Cette prière, c'est pour que les enfants de Dieu soient un, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un, en d'autres termes, pour qu'ils puissent partager cette ressemblance à Dieu, pour qu'il y ait une œuvre dans les cœurs, le cœur des vrais chrétiens, qui signifie que tous auront les mêmes caractéristiques. Et ils sont un dans ce sens-là, un en Christ, même s'ils ne se connaissent pas l'un l'autre, même s'ils viennent de différentes nations, pays, même s'ils sont séparés et loin l'un de l'autre physiquement, partout où vous allez trouver des chrétiens sincères qui ont ces caractéristiques et qui ressemblent à Dieu. Dès le début, Dieu répondra à cette prière. Il y aura des vrais convertis, les gens sont transformés, ils ont un caractère qui se ressemble, ils sont séparés du monde, ils aiment les choses de Dieu, ils prient Dieu, leur cœur est transformé dans une nouvelle nature, une vie nouvelle, ils ont cet amour pour les âmes perdues et ils se réjouissent pour le ciel. Ce sont là ces caractéristiques qui nous joignent et nous sommes un. Mais cette interprétation insensée dit que nous devons tous être dans la même dénomination, dans le même livre, avec notre nom écrit sur ce même livre, en étant sous la responsabilité d'un évêque local. C'est une organisation humaine. Non. Pour qu'ils soient tous un, pour qu'ils soient tous scellés de cette ressemblance à Christ. Et nous sommes tous ensemble parce que nous l'aimons lui. Et à présent, il y aura des gens qui adorent le Seigneur dans différents endroits, à différents moments de la journée, suivant leur zone horaire. Par exemple, au Népal, dans la campagne, sur les collines et la montagne, il y aura des gens qui adoreront le Seigneur parce qu'ils ont le même sceau de l'Esprit-Saint, les mêmes caractéristiques, le même caractère. Et ils aiment le Seigneur pour que nous soyons tous un. C'est là la vraie interprétation, la bonne interprétation du passage. Et ce qui prouve cela est au verset 21, « Pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Le monde ne sera jamais persuadé de croire en Christ parce que les gens sont tous dans la même dénomination, non ? Ou tous dans la même église mondaine, mais ils seront persuadés de croire en Christ quand ils voient ce caractère de Christ dans ses enfants, dans une personne, quand il voit le fruit de l'Esprit, quand il voit ces signes d'une vraie conversion et la sainteté et l'amour dans une personne. C'est là ce qui gagne le monde. Ainsi, l'interprétation bonne et biblique et la bonne interprétation de ce passage, c'est que Dieu a répondu à cette prière immédiatement et au jour même de la Pentecôte, il y avait 3000 personnes qui ont été scellées de ce sceau et en conséquence de la première prédication de Pierre et d'autres personnes les jours d'après. Certains chrétiens diffèrent sur certains petits points mineurs, mais les choses essentielles, nous avons ces choses en commun et les vrais chrétiens seront toujours un l'un avec l'autre. Toutes ces choses pour lesquelles Christ prie, Dieu répond immédiatement. Et nous allons considérer ces choses alors que nous voyons ce passage plus en profondeur. Mon deuxième point est celui-ci. Christ prie en tant que prophète. Et nous allons considérer rapidement ce matin que cette prière est la prière de celui qui était prophète, prêtre et roi. Souverain sacrificateur. Et vous pouvez voir les preuves de Christ étant un prophète, étant un souverain sacrificateur, étant un roi dans cette prière. Et j'aimerais d'abord attirer votre attention sur Actes chapitre 3, verset 20. J'aimerais lire certains versets. Là, Pierre prêche à nouveau et il dit « Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il vous envoie celui qui vous a été annoncé auparavant, Jésus-Christ. » que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé par la bouche de tous ses saints prophètes depuis longtemps, car Moïse a dit à nos pères, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, écoutez-le dans tout ce qu'il vous dira. » Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Il parle ici du prophète. Et c'est un avertissement pour ceux qui sont juifs et qui l'entendent. Un prophète. L'enseignement que Christ est un prophète. Oui, bien sûr, Jésus-Christ était le seul qui a rassemblé ces trois fonctions, prophète, sacrificateur et roi. Dans l'Ancien Testament, il y avait des prophètes, il y avait des sacrificateurs. Certains étaient sacrificateurs et prophètes également. Et il y avait des rois. Mais personne dans l'Ancien Testament n'était à la fois prophète, sacrificateur et roi. Jusqu'au jour où Christ est venu. Et lui accomplit ces trois fonctions parfaitement. Christ est là, il prie en tant que prophète. Au verset 1 du chapitre 17, Jésus dit ces choses, puis levant les yeux au ciel, il dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Il lève les yeux au ciel. Beaucoup de gens qui pensaient qu'à présent, ils sont partis de la chambre haute et ils sont sur leur chemin pour aller vers le jardin de Gethsémané. Mais ce n'est pas nécessaire. Il est plus probable qu'ils sont encore dans la chambre haute à ce moment-là. Ils lèvent les yeux au ciel, même dans cette chambre haute, parce qu'il était en communion constante avec le Père. Et il a pris la position de la prière. L'heure est venue. Les jours essentiels et importants sont arrivés. Et tout va être décidé à ce moment-là. Ils connaissaient tout, mais les disciples n'ont pas réalisé. Ils auraient été terrifiés s'ils savaient qu'ils allaient au jardin, là, dans le jardin de Gethsémané, que dans peu de temps, il allait être arrêté, jugé, crucifié. Et probablement, ils auraient fui pour leur vie, comme ils l'ont fait plus tard. Avant l'inauguration de la Sainte Cène, il a renvoyé Judas. Il savait exactement tout ce qui allait se passer. Un prophète parle de l'avenir et même dans sa prière, il parle de l'avenir et il prophétise. Il est un vrai prophète. L'heure est venue. Il savait que tout s'organisait, les armes étaient rassemblés, les soldats, les épées, les lévites du temple se rassemblaient. Judas était là pour parler aux chefs des juifs. D'autres étaient là, les scribes, les pharisiens, les chefs des juifs. Et ils se rassemblaient pour aller dans la nuit. Et dans quelques heures, il allait être arrêté. Il savait tout cela. L'heure est venue. Glorifie ton Fils. En tant qu'homme, il prie, même s'il est Dieu également, que les attributs de Dieu à présent soient démontrés, manifestés en lui. Et c'est là ce qui s'est passé, la sainteté de Christ, l'agneau de Dieu parfait, sans tache, qui souffre pour nous, l'amour de Christ qui est là, déversé, en souffrant de ce tourment terrible et imaginable à la place de ses enfants pour leur salut. La puissance de Christ sera manifestée dans sa résurrection, dans son ascension. Glorifie ton Fils, que les attributs de Dieu soient manifestés, afin que ton Fils te glorifie également. C'est pour la gloire de toute la Trinité, mais il est là, il montre sa fonction de prophète. Et au verset 5, « Et maintenant, glorifie-moi, Père, auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Ceci, c'est prophétique également. Il sera à la droite de Dieu le Père. Ceci a dû impressionner profondément les disciples. Il leur a enseigné toutes ces choses et à présent, ils sont là, debout, j'imagine, leurs yeux fermés et leur tête inclinée par respect. Ils écoutent le Seigneur qui prie le Père d'une manière si intime. À présent, il ne les enseigne pas, mais il est en communion avec son Père. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Restaure, redonne-moi la gloire sublime que j'avais avec toi avant, même avant la fondation du monde, avant que je ne sois venu dans ce monde. » Ils ont dû être si impressionnés parce qu'avant, il les enseignait et à présent, il parle à Dieu pour qu'il puisse agir. C'est probablement là la chose la plus arrogante à dire et à faire si ce n'était pas réellement vrai. Mais Christ était Dieu, il a fait ces choses dans leur présence parce qu'il savait qu'il était en communion avec le Père. Et ces choses sont encore plus réelles pour eux en sachant cela. Glorifie-moi, Père, auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Ce sont des choses extraordinaires. Il a accompli sa mission. Au verset 6, rapidement, « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. » Il connaît toutes choses. Au verset 8, il répète ceci. Au verset 11, « Et je ne suis plus dans le monde, mais ceux-ci sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. » Et nous pourrions continuer. Il parle en tant que prophète, celui qui sait qu'il va partir, qu'il sera à la droite de Dieu, et il connaît tout ce qui va se passer, il sait tout ce qui va se passer, et ce qui va se passer dans la vie des disciples alors qu'il les laisse, et ce qu'ils doivent faire pour prêcher au monde, et il mentionne ces choses, et il prie pour eux. Ainsi, il prie en tant que prophète. Les prophéties à court terme, à long terme également, et à terme intermédiaire. Il est un vrai prophète. Mon prochain point, c'est qu'il prie en tant que sacrificateur. Christ, bien sûr, était sacrificateur. Jésus, qui est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, pour toujours, dit la lettre aux Hébreux. Paul dit à Timothée, il est le médiateur entre Dieu et les hommes, il est un prêtre, un sacrificateur, et il prie en tant que souverain sacrificateur pour nous, au verset 2, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. C'est un verset que nous devons expliquer. Le verset 1 dit « Père, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie également. » Selon que tu lui as donné, ces deux versets sont interconnectés. Et nous pourrions lire ceci ainsi « Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie également en accord avec sa mission. » C'est là ce que le verset 2 dit. Ainsi, Christ prie pour être glorifié en accord avec la mission qui lui a été donnée par Dieu le Père. Comme tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. C'est un verset remarquable. Pourquoi est-ce que le Sauveur a la puissance sur toute chair? Quand cette déclaration essentielle est qu'il va sauver les élus hors du monde, pourquoi est-ce qu'il a le pouvoir sur toute chair pour sauver ses élus? Oui, bien sûr que oui, parce que s'il n'avait pas la puissance sur toute chair, c'est tout ce monde incroyant. Sinon, l'Évangile ne pourrait pas être répandu. Et l'Évangile serait supprimé, il n'y aurait pas de message de grâce dans ce monde, pas du tout, parce que Christ a le pouvoir sur toute chair pour amener le salut de ses élus. Ils ne seront pas capables de s'opposer, d'empêcher la propagation de l'Évangile et que les élus de Dieu soient sauvés. Le Seigneur détruit les empires s'ils sont un obstacle à son but. Nous avons vu des empires puissants être détruits. Les empires d'aujourd'hui sont différents des empires du passé, des empires idéologiques de nos jours, ou vous pourriez même parler de, si c'est légitime, d'empires sur Internet, des organisations, des grandes organisations qui répandent des idées matérialistes. Et nous ne savons pas combien de temps ça va mettre, mais nous ne serions pas surpris si ces choses seront détruites, comme les Égyptiens, les Chaldéens, l'Empire assyrien sont tombés un jour. Et tout le monde sera émerveillé et surpris parce qu'ils ont développé des choses anti-morales, anti-Dieu, pour œuvrer dans le cœur de milliers de jeunes gens. Christ a pouvoir sur toute chair pour le salut, amener le salut de ses élus, et rien ne peut être un obstacle à sa puissance invincible. C'est en partie une prière et en partie une proclamation. L'heure est venue, et à présent, il a la puissance, mais il prie en tant que souverain sacrificateur. Le verset 2 est un verset merveilleux. Il y a deux données et un donne dans ce verset. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Et ces trois termes, donner et donne, c'est là tout ce que vous avez besoin de savoir par rapport à la doctrine de l'élection divine. Le décret éternel de Dieu d'élire pour le salut ses enfants, ceux que Dieu le Père a donnés à Dieu le Fils pour qu'ils soient à lui pour l'éternité. C'est donné, donné, donné. C'est la grâce uniquement, quelque chose qui est donné entièrement. Les disciples, s'ils écoutent avec attention, vont apprendre à nouveau. Ceci n'est pas pour toute la race juive. Les juifs peuvent être convertis, oui, mais ce n'est pas uniquement pour les juifs et parce qu'ils sont juifs. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. De toute chair, de toute nation, de tout groupe ethnique, de tout pays, le salut des non-juifs également. Ainsi, les disciples, eux, ils voulaient une restauration de la nation d'Israël physique. Et ils écoutent Christ qui parle de sa mission, qu'il a la puissance de rassembler un peuple de toute nation, de tout pays, de toute chair, tous ceux qui sont nés juifs, oui, beaucoup d'entre eux, mais aussi ceux qui sont nés non juifs et qui sont donnés par le Père au Fils de toute nation. Ce n'est pas une réformation de la nation d'Israël, mais c'est le salut international pour le peuple de Dieu. Et tout par Christ, au verset 3. Or, c'est ici la vie éternelle, une définition de la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Vous connaissez Dieu, mais uniquement par Jésus-Christ. Non pas dans le sens d'avoir entendu parler de Dieu, mais de connaître dans le sens d'avoir cet amour pour lui, de se consacrer à lui, de se confier en lui, d'être transformé par lui. C'est là, connaître Jésus-Christ, ce dont ce verset parle, une nouvelle créature qui connaît Christ à l'image de celui qu'il a créé, dit l'apôtre Paul. Renouvelé dans sa connaissance, c'est là la vie éternelle. Au verset 4, je t'ai glorifié sur la terre par son enseignement, par son exemple, par sa compassion, la compassion de Dieu dans ce grand ministère de guérison, mais en particulier par son œuvre d'expiation à la croix du calvaire. Il a enseigné les 12. Il les a préparés pour la nouvelle Église. Je t'ai glorifié sur la terre. Voyez, il parle comme un souverain sacrificateur. J'ai achevé l'ouvrage que tu m'avais donné à faire en représentant Dieu devant les hommes et en représentant l'homme devant Dieu à la croix. Il y aura cette union qui ne peut pas être brisée. Et ensuite, mon dernier point, il prie en tant que roi. Christ était roi pour se préparer avant l'entrée triomphale à Jérusalem. Il a envoyé les disciples pour chercher les animaux, l'ânon sur lequel il allait entrer dans Jérusalem. Il a dit à ces gens, « Voyez, votre roi vient à vous. » Il l'a dit lui-même. Quand Pilate lui a dit, « Est-ce que tu es un roi ?» Il dit, « Oui, tu l'as dit toi-même. » Ou, comme nous le dirions aujourd'hui, c'est exactement comme tu le dis, il était le roi dont l'Ancien Testament a prophétisé, prophète, souverain sacrificateur et roi. Ainsi, il prie en tant qu'homme dans son humiliation volontaire, mais Jean 17, c'est une prière d'un roi, c'est une requête. Il dit « je prie », mais c'est plus qu'une requête, une prière, c'est une prière d'exécution, si vous voulez. Comme il le dit, ceci, le Père va y répondre avec joie parce qu'ils ont décidé de faire cela et que Christ va payer le prix avec son propre sang à la croix du calvaire pour que le Père puisse répondre à cette prière. Le Père se réjouit de répondre. Une prière, oui, mais une prière d'exécution. C'est pour ceci qu'elle est unique. Au verset 1, Jésus dit ces choses. Il parle en tant que roi. Puis levant les yeux au ciel, il dit, « Père, l'heure est venue. » C'est, oh, si je peux le dire, un commandement, tout autant qu'une requête, c'est une prière d'exécution. « Père, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Ensuite, il donne ses qualités au verset 4 et 5. « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'ouvrage que tu m'avais donné à faire. Et maintenant, ô Père, il prie en tant que roi, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Oh oui, c'est juste. Il va retourner à cette gloire et il implore pour que ceci soit fait et le Père le fait avec joie. Et les versets 9 et 10, oh, c'est là la prière d'un roi. Nous ne pouvons pas prier ainsi. Je prie pour eux, pour mes enfants. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Écoutez cela. Et tout ce qui est à moi est à toi. Ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Moi aussi, je suis un roi. C'est là ce que dit ce verset. Ils sont à moi et tout autant à toi. Il va prier, c'est une requête, mais ces versets sont sans aucun doute, c'est là le langage d'un roi, quelqu'un qui est égal à Dieu, le roi du ciel, égal au Père. Et ce sont là ses enfants et il va régner sur eux pour toujours. C'est sa propriété au Fils et au Père et au Saint-Esprit, si nous pouvons ajouter cela. Si ceci n'est pas suffisant, voyez le verset 24, ce langage d'un roi, « Père, je désire que ceux que tu m'as donnés soient avec moi où je serai. » J'ai remarqué que la plupart des versions modernes essayent de leur mieux de garder ceci dans le langage d'une prière soumise à un supérieur. Mais ce n'est pas juste que de faire cela. Et ainsi, il traduit ce verset en disant « Père, je désire que ceux que tu m'as donnés soient avec moi où je serai. » Mais les versions plus anciennes et la version anglaise ont raison en disant « Père, je demande que ceux que tu m'as donnés soient avec moi. » C'est la volonté, non pas le désir. Et c'est ainsi que ce terme est utilisé et traduit ailleurs dans le Nouveau Testament. C'est plus fort que désirer. Par exemple, dans Éphésiens chapitre 1, verset 11, où l'apôtre Paul parle du décret de sa volonté, le dessein de sa volonté. « Ô Père, le dessein de ma volonté est celui-ci. » C'est le même terme. Il prie en tant que roi. C'est la prière d'un prophète, d'un souverain sacrificateur et d'un roi. « Ô Père, c'est ma volonté que ceux que tu m'as donnés soient avec moi où je serai, afin qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée. Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde, il y avait cette égalité, l'harmonie de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, avant la fondation du monde, également glorieux. Et c'est la volonté du Fils, ainsi ça doit être la volonté du Père et de l'Esprit également, que ses enfants soient avec lui, là où il est. Je désire, je veux que ceux que tu m'as donnés soient avec moi. Nous verrons une prochaine fois la richesse de cette prière, une prière pour les apôtres, une prière pour les enfants de Dieu, de toute génération, tous les croyants. Mais c'était là une introduction à cette prière. Notre prophète, notre souverain sacrificateur, notre roi, dans cette prière, il prédit, il enseigne et il prophétise. Il est un médiateur, il prie pour ses enfants. La prière de Christ pour ses enfants. Et il proclame, il a sa volonté et il décide en tant que roi. Et ceci a impressionné les disciples, je suis sûre. Dans peu de temps, ils vont oublier cette prière après la croix du calvaire, mais ensuite, ils seront restaurés et ils vont se souvenir de cette prière. Ceci nous donne une assurance extraordinaire, une certitude. Au verset 12, « Pendant que j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom, j'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu. » Avec l'exception du fils de perdition qui n'a jamais été sauvé pour que l'Écriture soit accomplie. La vie éternelle et cette sécurité en Jésus-Christ, la persévérance des saints. Chers amis, c'est un tel réconfort pour nous. Christ prie en tant que prophète. Il est votre sauveur, c'est lui qui connaît toutes choses. Il connaît parfaitement l'avenir, le dessein du Père. Il sait exactement ce qui va se passer. Il enseigne parfaitement. Il nous donne l'assurance. Il est infaillible. Sa parole est toute suffisante et profonde. Oh, nous avons un prophète, un enseignant, celui qui nous guide, qui nous dirige, qui est infaillible. Il prie en tant que médiateur, en tant que souverain sacrificateur. Mon salut ne dépend pas de moi, votre salut ne dépend pas de vous. Si nous trébuchons, si nous tombons, que l'ennemi vient en disant « Vous êtes une âme perdue, vous ne pouvez pas connaître Christ. » Nous retournons à Christ, nous nous repentons. Et nous disons oui, mais ma sécurité éternelle dépend de lui seul, parce qu'il a porté tous mes péchés, et il est mon avocat. Et nous retournons à Christ, et nous nous consacrons à nouveau à lui. Il est notre souverain sacrificateur, et il est notre roi, celui qui dirige nos vies, qui nous dirige constamment dans notre vie, jour après jour. Et nous nous consacrons à lui chaque jour, et nous nous plaçons sous son autorité, consciemment, et nous fléchissons les genoux devant lui. Nous sommes sous son autorité, le roi de ses enfants, et il va nous diriger et régner sur nous pour l'éternité. Simplement une introduction pour cette prière. Christ prie en tant que prophète, que souverain sacrificateur et roi.